Est-ce qu'il vous arrive d'envier des païens qui peut-être ne connaissent pas Dieu, peut-être ne le glorifient pas, mais qui en même temps semblent avoir des vies faciles? Ils sont beaux ou pas, ils ont de l'argent ou pas trop, mais on est souvent un peu jaloux devant ces personnes. Ces personnes qui peuvent se payer ce qu'elles veulent, quand elles veulent, n'importe quand ou n'importe où. Le compte en banque n'est pas un problème. Et vous êtes là à compter vos sous, à vous dire comment on va y arriver ce mois-ci. Ça vous conduit à prier et à vous en remettre au Seigneur. Et c'est pas une mauvaise chose, bien sûr. Mais ça, c'est un problème qu'on connaît depuis le début des temps. C'est que les gens qui, des fois, des gens qui se moquent de Dieu semblent être bénis, semblent avoir tout ce qu'on peut rêver. Et c'était un peu la situation avec le peuple d'Israël, le peuple de Dieu à l'époque. Il revenait d'exil après avoir passé 70 ans. Je vous invite à écouter le message précédent pour savoir pourquoi il y avait 70 ans. C'est mathématique. C'est 490 divisé par 7. Je vous laisse écouter le message. Et ils avaient été encouragés par des prophètes à revenir, notamment le prophète Agé qui leur avait dit « Vous êtes bien installés maintenant à Babylone. » Et le fait est qu'ils s'étaient bien installés, ils avaient commencé à faire du commerce, à prospérer, à avoir des belles maisons. Ils avaient même, ce qui était à l'époque, c'était le chic du chic, ils avaient des maisons lambrissées. C'est-à-dire qu'au mur, au lieu d'avoir des pierres, il y avait du bois. Et c'était un signe d'indulgence matérielle. Par contre, la maison du Seigneur, elle était en ruine à Jérusalem. Et le prophète Agé leur a dit, il faudrait peut-être penser à la maison du Seigneur. Il a agi de la sorte que le nouvel empereur du monde les autorise à repartir à Jérusalem, en Israël, pour reconstruire le temple. Et le prophète Agé leur avait aussi promis au peuple juif qu'il allait se débarrasser, qu'il allait punir les nations qui avaient maltraité Jérusalem, maltraité les Juifs. Et c'était pour eux un encouragement de se dire « on souffre, mais on va être vengé ». Pour revenir à cette envie qu'on a d'avoir les choses que ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent avoir et dont ils peuvent profiter, rappelez-vous de cette expression « envier la prospérité des païens ». C'est semblable à quelqu'un qui, voyant le cercueil d'une personne, envierait les fleurs qu'il y a sur le cercueil. C'est aussi stupide, parce que ce sont des gens qui sont appelés à mourir éternellement s'ils ne viennent pas à la connaissance de Jésus. Mais notre chair étant ce qu'elle est, on a souvent tendance à rouspéter et à se dire « Mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi il prospère et moi, regarde, je galère. Il prospère, je galère. » Et c'est ce que le prophète Zacharie va leur dire. Il est pratiquement contemporain, on pense qu'il était plus âgé que Agé, mais ils ont commencé tous les deux à prophétiser en l'an 520 avant Jésus-Christ, sous le règne de Darius. On a vu que le message de Zacharie se trouvait dans le nom du prophète, le nom de son père et le nom de son grand-père. Moi, je m'appelle Pierre, Paul, Joseph. Mon père s'appelait Gaston Jacques Sauveur et son père s'appelait Pierre-Paul. Et je ne sais plus les autres noms. Mais la seule chose qui soit bien dans ça, c'est Sauveur. Mon père s'appelait Sauveur. Il n'est, je ne crois pas malheureusement, et c'est triste à réaliser. Il est décédé avant que je devienne moi-même chrétien et je ne pense pas qu'il soit sauvé. On espère toujours que Dieu peut intervenir au dernier moment, faire rappeler des choses que la personne a entendues et on espère qu'on aura des bonnes surprises. Mais pour Zacharie, c'était le fils de Bérékia et le petit-fils d'Ido. Zacharie, ça veut dire l'Éternel se souvient, l'Éternel se rappelle. Bérékia, ça veut dire que Dieu bénit. Dieu amène la bénédiction. Et Ido, c'est pas idiot, c'est Ido, ça veut dire au moment voulu par Dieu. Donc si on prend ces trois prénoms, ces trois noms, c'est Dieu se souvient et il bénit au moment voulu par lui. Autrement dit, Dieu va se souvenir de son peuple, il va se souvenir de ses promesses, et à un moment ou à un autre, il va bénir. Et cette certitude que Dieu va finir par nous bénir, c'est ce qui a permis à des hommes de souffrir des choses terribles aux mains des persécuteurs, aux mains des gens qui les ont même mis à mort. Dans la lettre aux Hébreux, on sait qu'il y en a qui ont accompli des grandes choses. Mais il est dit aussi qu'ils ont beaucoup souffert. Je vous renvoie au chapitre 11, mais à la fin il est dit « D'autres ont été torturés en parlant des saints et n'ont pas accepté, c'est-à-dire des gens qui ont cru en Dieu, qui n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve, tentés. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, ainsi ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. » Autrement dit, on n'a pas de garantie que les bénédictions de Dieu vont arriver sur la terre et qu'on va avoir la grande villa avec la richesse, le compte en banque rempli. Dieu peut le faire, il n'y a rien de mal à avoir ses possessions du moment qu'elles ne deviennent pas une idole dans nos vies. Et on peut faire beaucoup de bien si on a des ressources pour l'œuvre du Seigneur, des ressources matérielles pour l'œuvre du Seigneur. Mais c'est le message de Zacharie. C'est un message d'encouragement. Vous passez par des épreuves, mais Dieu se souvient et il va vous bénir au moment voulu par lui. Ne perdez pas courage. Et aujourd'hui, on va voir une première vision de Zacharie. Zacharie a eu, en une seule nuit, il a eu 8 visions. Certains en dédoublent quelques-unes et parlent de 10 visions. 10 comme le chiffre 2 fois 5. Nous, on a souvent tendance dans les églises à parler de 10 visions, D-I-V-I-S-C-O-N, et ça, c'est pas bon. Ça ne mène pas la gloire à Dieu. Il a eu 8 ou 10 visions, et toutes ces visions avaient pour but d'encourager le peuple. Alors je parle du peuple de Dieu, et on sait que dans l'Ancien Testament, c'est souvent une référence au peuple d'Israël, aux Juifs. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'a pas été remplacé par l'Église. Il suffit de regarder des passages comme Romains 11, 12, 13 pour voir que Dieu a toujours un plan pour Israël. Et ceux qui voudraient penser que Dieu en a fini avec les Juifs, ça devient très dangereux. Parce que si Dieu n'est pas capable de respecter les engagements qu'il a pris auprès du peuple juif, que peut-on attendre de lui pour les promesses qu'il nous a faites? Et encore une fois, beaucoup se demandent, mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi Israël? Alors bien sûr, il n'a pas choisi Israël, l'État-nation d'aujourd'hui, il n'a pas choisi même tout un peuple. À l'époque, il a choisi une personne, Abraham. Et il dit qu'à travers lui, toutes les nations de la terre seraient bénies, faisant allusion à la venue du Messie qui interviendrait par les descendants, la descendance d'Abraham. Et quand on parle d'Israël, encore une fois, on n'est pas là pour supporter Israël, l'État-nation d'aujourd'hui, même si l'existence de cet État-nation est un début de l'accomplissement des prophéties de la fin du temps, des temps. On n'est pas là pour soutenir les uns contre les Israélites, contre les Palestiniens, quoi que ce soit. Dieu aime tous les hommes. Il y a des frères et des sœurs palestiniens, arabes. Ce n'est pas une question. Dieu aime tous les hommes. Il est mort pour tous les hommes. Mais il se trouve qu'il a choisi Israël. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce pays, cette nation, en choisissant Abraham? Plusieurs raisons. Il avait besoin d'un peuple pour proclamer l'existence du vrai Dieu. Il avait aussi besoin d'une nation pour révéler le Messie. Il avait besoin d'un prêtre parmi les peuples, parmi les hommes. Le prêtre parle de Dieu aux hommes et aux hommes à Dieu des hommes. Il avait aussi besoin d'un peuple qui saurait recevoir et garder, préserver les Écritures. Et puis, il avait besoin d'un exemple vivant pour montrer que même lorsque son peuple est infidèle, lui est fidèle. J'aime bien résumer tout ça en disant que oui, Dieu aurait pu choisir les Bretons. Il aurait pu choisir les Alsaciens. Il aurait pu choisir les Romains. Je crois même qu'il aurait pu choisir les Corses. Mais il s'est trouvé qu'il devait atterrir, en quelque sorte, dans la race humaine. Et il a trouvé, il savait à l'avance, qu'il y aurait un aérodrome, pour ainsi dire, où le brouillard ne serait pas trop fort, et il a choisi souverainement d'atterrir dans le peuple d'Israël. Ça ne veut pas dire que le peuple d'Israël est meilleur que les Corses, ou les Bretons, ou les Alsaciens, ou les Romains. Ça veut simplement dire qu'il les a choisis. On ne sait pas pourquoi il a pensé qu'il serait un meilleur aéroport, mais il fallait qu'il en trouve un. Peut-être qu'il a dit Amstramgram, pique et collégram. Non, là, je suis un peu léger, pardon, pardonnez-moi. Mais je veux dire, il n'y avait pas, a priori pas de raison particulière, sauf la souveraineté de Dieu qui décide ce qu'il veut, quand il veut, pour les raisons qu'il veut, et que seul lui peut connaître. Et la chose terrible, et le fait que ça a été un peuple qui a montré la fidélité de Dieu, c'est qu'au lieu de se sentir obligé vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu leur avait demandé d'être un témoin de son amour à tous ceux qui les entouraient, il leur avait donné des responsabilités de préserver ses écritures, de montrer son amour, d'expliquer qui il était, de faire envie aux autres peuples de connaître aussi ce Dieu d'amour. Leur problème, parce qu'ils étaient humains, qu'il y avait le péché dans leur cœur, au lieu de voir une responsabilité sacrée, ils ont sauté dans l'orgueil racial, pensant que oui, on est supérieur aux autres parce que Dieu m'a choisi. Je suis chrétien, mon voisin est païen, je suis meilleur que lui. Non, allez parler à votre voisin de l'amour de Dieu qui vous a accepté tel que vous étiez, tout pécheur que vous étiez. Et donc, il les a choisis. Et souvent, on voit s'il y a du mauvais temps, s'il y a des tempêtes ou des choses comme ça, on sait que l'aéroport de Nice est fermé et le Paris-Nice, il va aller atterrir soit à Toulon, soit à Venise, soit à Rome, soit... Il faut trouver un endroit. Ce n'est pas parce que l'avion atterrit à Toulon que Toulon doit... Hey. On est fort. Mais tout ça pour dire que on parle du peuple juif comme le peuple de Dieu et que le Nouveau Testament nous apprend que Dieu est venu abolir la séparation entre le peuple juif et les païens, et c'est là qu'il a créé l'Église. Et l'Église, ça regroupe les juifs, les païens qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est ainsi que on arrive... On avait juste un petit rappel, on avait vu qu'en fait la condition de la bénédiction, c'était l'obéissance. Ils n'avaient pas été bénis parce qu'ils n'avaient pas obéi. Et eux-mêmes reconnaissaient qu'ils n'avaient pas obéi et qu'ils avaient reçu ce qu'ils méritaient. Nous aussi, c'est la première chose à faire lorsqu'on reconnaît que Dieu exerce un jugement envers nous. C'est de reconnaître que ce jugement est juste, de demander pardon et de revenir à lui. C'est l'appel, renoncez à vos mauvaises voies, à mauvaises actions, revenez à moi, déclare l'Éternel. La première chose, c'est de se repentir, de réaliser qu'on fait fausse route vers le péché et qu'on s'éloigne de Dieu et de revenir à lui avec repentance. Avec humilité. Et donc, on va lire la première vision, qui est appelée des fois la vision des chevaux. Je lis dans la version second 21, et ça se trouve page 1053 dans votre Bible, si vous avez emprunté la Bible bleue de l'Église. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shébat, la deuxième année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Bérékia et petit-fils d'Ido. Il nous rappelle, Dieu se souvient et bénit au moment voulu par lui. J'ai eu une vision pendant la nuit. Un homme monté sur un cheval rouge se tenait parmi des myrtes dans un creux. Il y avait derrière lui des chevaux roux, bais et blancs. J'ai dit, « Qui sont ces chevaux, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait m'a dit, « Je vais te montrer qui sont ces chevaux. » L'homme qui se tenait parmi les myrtes a pris la parole et a dit, « Ce sont eux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » Ils se sont adressés à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et ont dit, nous avons parcouru la terre et nous avons vu que toute la terre est tranquille, en paix. Alors l'ange de l'Éternel a pris la parole et a dit « Éternel, maître de l'univers, jusqu'à quand refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans ?» L'Éternel a répondu par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. L'ange qui me parlait m'a dit « Proclame, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. J'éprouve une grande jalousie envers Jérusalem et Sion et une grande irritation contre les nations insouciantes, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. » Ma maison y sera reconstruite, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, et l'on étendra le ruban à mesurer sur Jérusalem. Proclame encore, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, mes villes auront des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Amen. Là aussi, on a des renseignements très précis sur la date de cette vision. En l'espace d'une nuit, Zacharie va avoir 8 ou 10 visions, selon comment on les présente. Et lorsqu'il est question de vision, ça engage toute l'intellect de la personne. C'est pas un rêve. Un rêve, on le fait en dormant. Mais là, on va voir qu'il intervient, qu'il pose des questions. Et on va voir qu'il a 2 interlocuteurs. Il y a l'ange qui me parlait. C'est une expression qui revient... pendant la description de ces visions pendant cette nuit, au verset 13, l'ange qui me parlait, verset 14, l'ange qui me parlait, chapitre 2, verset 2, j'ai dit à l'ange qui me parlait, verset 7, l'ange qui me parlait s'est avancé, etc. Jusqu'au chapitre 4, l'ange qui me parlait est revenu. Verset 4, 5 du chapitre 4, l'ange qui me parlait m'a répondu. Donc il y avait cet ange qui était comme un intermédiaire entre Dieu et le prophète. Et puis il y avait, je dis entre Dieu et le prophète, Dieu, il est représenté ici par l'ange de l'Éternel. Verset 11, ils se sont adressés à l'ange de l'Éternel. Et ce n'est pas la même personne. Qui est l'ange de l'Éternel? Si on regarde un des premiers passages qui utilise cette expression dans l'Ancien Testament, on peut se retourner à Genèse 16, avec le fameux épisode d'Agar, qui a son enfant, Ismaël, qui n'était pas l'enfant qui avait été promis à Abraham, mais qui était quand même quelqu'un que Dieu voulait absolument bénir, protéger. Et Dieu va intervenir auprès d'Agar, la servante de Sarai, et on entend parler au verset 7 du chapitre 16 de la Genèse, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est le chemin de Chour. Ça, c'est Genèse 16, 7. Et on voit cet ange qui s'adresse à lui. L'ange de l'Éternel, verset 9, « Retourne vers ta maîtresse et émulie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance. » Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Peut-être un changement de... Non, c'est bon. L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Et là, elle ajoute, elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Atta El-Roi, car elle a dit, ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ? C'est ce que veut dire El-Roi, c'est celui qui voit. Et donc, elle reconnaît dans l'ange de l'Éternel, l'Éternel lui-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'Ancien Testament. Cet ange de l'Éternel qui apparaît ici à Agar, il va apparaître à Abraham au chapitre 18, notamment au chapitre 22, les versets 11 et 18, à Jacob, chapitre 31 de la Genèse, à Moïse, vous vous souvenez, l'épisode du buisson ardent, c'était l'ange de l'Éternel qui parlait à Moïse. L'ange de l'Éternel a parlé et est apparu à Gédéon dans les Juges, chapitre 6, versets 11 à 23, aux parents de Samson dans le chapitre 13 des Juges. Donc c'est un personnage qui est omniprésent et ce n'est pas surprenant puisqu'en fait les commentateurs, les gens qui étudient la Bible s'accordent pour dire qu'en fait l'ange de l'Éternel avec le L apostrophe qui désigne un seul ange particulier, c'est l'ange de l'Éternel. Ça n'est autre que la deuxième personne de la Trinité, ça n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Et donc lorsqu'il est question de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, dans la parole, c'est une référence à Jésus-Christ pré-incarné. Jésus-Christ est Dieu, il s'est incarné, c'est ce que nous célébrons à Noël, il s'est incarné pour venir mourir, pour nous montrer comment il fallait vivre, mourir à Pâques et être ressuscité d'entre les morts le jour de sa résurrection, pour remonter au ciel, nous envoyer le Saint-Esprit et nous promettant de revenir à la fin des temps. Chercher ceux qui le connaissent, les enlever dans les cieux, avant de venir régner sur la terre, de remettre les pendules à l'heure, en quelque sorte, pendant 1000 ans, avant l'avènement de la Jérusalem céleste. Et donc cet ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. Et dans cette vision des chevaux, on voit que le prophète l'a décrit dans les versets 7 et 8, il donne la date, c'est juste 50 jours après qu'ils aient commencé les travaux. Et c'est sans doute parce qu'ils étaient découragés, il y avait de l'opposition, ils laissaient tomber un peu, ils baissaient les bras. On a dit encore que c'était dans le livre d'Esdras. On sait que sur les millions de personnes qui avaient été déportées, qui s'étaient installées à Babylone et avaient prospéré là-bas, il n'y en avait que 42 360 qui étaient revenus. C'est beaucoup en nombre absolu et c'est très peu en pourcentage. Donc c'était les plus spirituels des captifs de Babylone qui avaient décidé de laisser tomber leur bien-être matériel, peut-être même au prix de laisser tomber leurs amis, peut-être même de la famille, mais qui avaient décidé de revenir, mais pourtant le prophète leur disait « retournez à Dieu ». Il y a une différence entre retourner à des bonnes œuvres, répondre à un appel et revenir à Dieu au quotidien. Dieu ne leur avait pas demandé de revenir à ses lois, à ses rituels. « Revenez à moi ». Nous sommes appelés à venir à Dieu, avoir une relation d'intimité avec lui. Et donc, il voit cet homme monter sur un cheval roux qui se tenait parmi des myrtes dans un creux. Puis, il y avait des chevaux roux, bais et blancs. La myrte, c'est un petit arbuste qui peut mesurer jusqu'à 2-3 mètres, qui est très commun en Israël et qui est souvent dans la Bible utilisé pour désigner Israël, comme la vigne peut désigner Israël, et on sait que Dieu le Père est le vigneron. Israël peut être la vigne, il y a d'autres expressions comme ça, mais dans notre cas, la myrte, on pense que ça désigne le peuple de Dieu. Il était monté sur un cheval roux. Une traduction peut être aussi un cheval rouge. Et il y avait d'autres chevaux, sous-entendu, il y avait des cavaliers avec sur ces chevaux. Il y avait des chevaux roux, alors moins rouges que le premier sans doute. B, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cheval de couleur B? En fait, je connaissais le mot, mais je ne savais pas trop quelle était la couleur que ça désignait. Apparemment, c'est un cheval brun, mais qui a un poil un peu rougeoyant et qui a une queue noire. Et puis, il y avait des chevaux blancs. Alors, on a tendance, vous connaissez un peu votre Bible, à penser, il y a les quatre cavaliers de l'Apocalypse, peut-être qu'on peut faire un rapprochement. En fait, non. Là aussi, les commentateurs sont d'accord pour dire que celui qui est sur son cheval roux, cheval rouge, le verset 11 nous dit qu'en fait, c'était l'ange de l'Éternel. Jésus-Christ était au milieu des myrtes, au milieu de son peuple, monté sur un cheval rouge. Et beaucoup pensent que c'est parce que c'est lui qui allait verser son sang pour notre rédemption, pour notre rachat, pour notre salut. Les autres chevaux, différentes couleurs, on pense aussi que c'était monté par des anges de différentes catégories. Ici, notre version, second 21, parle de l'Éternel, le maître de l'univers. Si vous avez d'autres versions, il est des fois question de l'Éternel, le Seigneur des armées. Et c'est l'idée, c'est qu'il est le chef, ou il a à sa disposition des troupes innombrables d'anges puissants qu'il peut envoyer où il veut. Et là, ils sont en train de patrouiller quelque part, ils sont en train de patrouiller la terre. Dieu sait ce qui se passe. Des fois, on a l'impression qu'il n'est pas là ou qu'il a décidé de s'occuper d'autre chose et qu'il a pas vu certaines choses. Dieu voit tout, Dieu est au courant de tout. Il sait les motivations des hommes, de nos cœurs. Il est au courant. Le mot qui est utilisé, l'explication, donc c'est les versets 9 à 11, il demande, Zacharie dit, « Qui sont ces chevaux, mon Seigneur ?» Il parle à l'ange qui lui parlait et lui dit, « Je vais te montrer qui sont ces chevaux. » Donc il nous donne la réponse. « L'homme qui se tenait parmi les myrtes a pris la parole et a dit, « Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » Ils se sont adressés à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et ont dit « Nous avons parcouru la terre et nous avons vu que toute la terre est tranquille, en paix. » Donc ces cavaliers, ces anges que le Seigneur envoie à la surface de la terre, ils reviennent. Et c'est intéressant, c'est la même expression de lorsqu'on lit dans le livre de Job que Satan parcourait la terre. Satan lui aussi voit ce qui se passe. Satan aussi a des anges démoniaques qu'il peut envoyer pour nous faire pécher, pour nous faire tomber dans le péché. Mais même si Jésus a dit que Satan est pour l'instant le prince de ce monde, il y a toujours ces anges qui sont présents et qui savent exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on peut avoir confiance si on est sûr que Dieu nous aime, ce que l'on devrait être sûr, on devrait en être sûr, que Dieu va remettre les pendules à l'heure, qu'il va accomplir ses desseins, que les bons seront récompensés, les méchants seront punis. Et vous avez, encore une fois, aucune raison d'être jaloux des belles roses blanches qu'il y a sur le cercueil de ce païen auquel vous êtes, pour lequel vous êtes venu assister à l'enterrement. L'ange de l'Éternel reçoit le message de sa grande patrouille qui lui disent « Nous avons parcouru la terre et nous avons vu que toute la terre est tranquille, en paix. » On pourrait penser que c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le peuple juif. Parce que ça veut dire que Dieu ne les a pas vengés, que les prophètes qu'il avait fait, les prophéties qu'il avait données à Agé ne sont pas en train de se réaliser. Plus loin, il est dit que ce sont des nations insouciantes. Dieu avait utilisé des nations païennes pour reprendre son peuple qui l'avait rejeté ou qui l'avait négligé. Dieu peut utiliser des païens dans votre vie pour vous reprendre. Et vous aurez sans doute remarqué que des fois les païens sont très perspicaces et nous disent « Mais quoi, tu fais ça, toi, tu devrais faire autrement ?» Ils ne sont pas prêts à embrasser l'existence de Dieu et à se mettre le genou bas devant lui, mais ils savent plus ou moins que Dieu a des principes qu'un chrétien ne doit pas violer. Et donc il avait utilisé ces peuples, on sait qu'il avait utilisé la Syrie, l'Égypte, Babylone, maintenant c'était les Perses, les Médo-Perses, puis il allait continuer en utilisant les Grecs et les Romains, ça on verra ça dans la prophétie des quatre cornes et des quatre forgerons, très intéressant aussi. Mais pour eux, ils s'attendaient à ce que Dieu vienne et remette les pendules à l'heure, et ils ne voulaient surtout pas que le monde soit en paix, tranquille, tranquillou bilou. Dieu a dit qu'il allait nous venger, et puis il n'y a rien qui se passe, comment ça se fait? Et on a vu la description, l'explication, maintenant l'application jusqu'à la fin. Il se passe quelque chose. Juste un petit commentaire, lorsqu'il est dit « la terre est tranquille, en paix », c'est une paix superficielle qui est décrite pour décrire la tranquillité de Moab ou de Sodome. Il y a des païens qui sont totalement en paix, ils ne se posent pas de questions, ils trichent, ils profitent, ils ont la belle vie, ils complotent, ils peuvent faire des choses horribles, mais ça ne les gêne pas trop. Et c'est ce genre de paix qui dominait sur la terre à l'époque. C'est une paix qui est presque fière d'elle-même. Moi, je n'ai pas de problème. Toi, tu as trouvé ta béquille avec Dieu, c'est très bien, mais moi, je n'ai pas besoin, tout va bien. C'est ce genre de paix dont il parlait. Et encore une fois, Dieu leur avait dit « Je ferai trembler, voici ce que dit le maître de l'univers, ça c'est AG 2:6, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront et j'en remplirai de gloire ce temple qu'ils allaient reconstruire, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Et donc ce rapport, c'est terrible pour ceux qui sont opprimés, ceux qui sont persécutés, ceux qui veulent suivre le Seigneur de tout leur cœur, même s'ils le font imparfaitement. Et là, il y a une chose merveilleuse qui se passe, c'est que Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, on est au verset 12, a pris la parole et a dit « Éternel maître de l'univers, jusqu'à quand refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans ? Est-ce qu'on réalise bien ce qui se passe là ? Moi, je dois dire, la première fois que j'ai lu, j'ai pensé que c'était le peuple qui priait cette prière. Mais c'est Jésus-Christ qui intercède pour eux auprès du Père. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie de prière ? Il y en a qui veulent lever la main ? Je la baisse aussi. On peut toujours prier davantage. Et pour tous les grands hommes de Dieu, la chose qu'ils regrettent, qui nous a quitté récemment, Billy Graham, c'est que notre vie de prière n'est pas ce qu'elle devrait être. On devrait prier sans cesse. Alors, ça ne veut pas dire toujours les yeux fermés et toujours en train de parler. Mais on doit toujours être dans cette communion. Et si on est, je crois qu'on est tous prêts à le reconnaître, malheureusement, on est bien loin de ça. Et même parmi nous, ceux qui prient le plus, celles qui prient le plus, je suis sûr qu'elles aimeraient encore prier davantage et prier mieux. La chose merveilleuse, c'est que même s'il y a des gens qui vous aiment et qui prient pour vous, ils ne connaissent pas tout de vous, toutes vos situations, ils ne sont pas toujours présents pour prier pour vous. C'est le contraire de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel sait tout de vous, il est toujours présent avec vous. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il est avec nous, il nous le promet. Et nous avons toutes les raisons de le croire. Il peut utiliser des anges pour nous protéger, pour nous avertir. Ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu libre à interprétation. Mais pourquoi pas ? On voit comment il utilise des messagers. Il intercède. C'est le rôle qu'il a aujourd'hui, c'est d'intercéder pour nous. Si personne n'a prié pour vous ce matin, on devrait prier les uns pour les autres. On devrait établir des groupes de prière ou même simplement, dès qu'on pense à quelqu'un, plutôt que de penser à ce qu'ils ont dit, priez pour eux. Priez pour que Dieu les bénisse. Priez pour que Dieu les instruise, les guide, les console, les réconforte, les utilise. Si vous pouvez, si jamais vous pensez à moi, merci pour vos prières. Et chacun de nous, on devrait avoir un petit groupe de personnes pour qui on prie. Mais même si ça n'existe pas, sachez que Jésus-Christ a prié parfaitement pour vous. Et il intercède auprès du Père, auprès du Maître des armées. Il prend sur lui la déception, la frustration de son peuple. Et c'est vrai pour nous. Tout ce que vous éprouvez comme frustration, cette semaine, j'ai vécu quelque chose qui m'a vraiment montré la profondeur du mal dans notre monde. Et que c'est pas seulement loin dans un pays où il y a des terroristes et des persécutions. Ça peut être à Nice même. Il peut se passer des choses. On se dit, mais Seigneur, jusqu'à quand vas-tu permettre de telles choses ? Eh bien, Jésus peut prier pour vous. Jusqu'à quand tu vas permettre de telles choses ? Et puis, l'Éternel a répondu par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Donc, c'est l'autre ange qui fait un peu la traduction, qui explique un peu ce qui se passe. L'ange qui me parlait m'a dit « Proclame ». Donc il donne le message à Zacharie qui nous l'a donné, donc il a fait son travail. « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, Dieu le Père. J'éprouve une grande jalousie envers Jérusalem et Sion et une grande irritation contre les nations insouciantes, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. » Dieu est prêt, si nous nous tournons vers lui, à nous encourager. Parce qu'il dit qu'il a des sentiments très forts. Quand il est dit « J'éprouve une grande jalousie envers Jérusalem et Sion », On avait vu au début que l'Éternel était très irrité contre les ancêtres de ceux qui retournaient à Jérusalem. Et on avait expliqué que la formule ou la forme grammaticale utilisée était vraiment très forte. C'était colère, colère, colère. Je suis vraiment en colère, d'une colère terrible. Il y a trois procédés grammaticaux qui veulent faire passer aux gens qui connaissaient la langue qu'il est en pétard, fan de chouichou. Vraiment une colère terrible. Là, quand il dit qu'il est jaloux, c'est la même construction. Jalousie, jalousie, j'éprouve une jalousie jalouse que vous ne pouvez pas imaginer envers mon peuple, envers Jérusalem et Sion. Sion, c'est la montagne où a été bâti le temple, et on utilise souvent Sion ou Jérusalem. Mais cette jalousie, ce n'est pas une jalousie humaine d'un homme qui est jaloux de sa femme parce qu'il a vu qu'elle a parlé avec cet homme qui semblait intéressé par elle ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas une jalousie malsaine, c'est un zèle pour ceux qu'on aime. Et un mari devait être jaloux de sa femme dans ce sens. Il ne veut pas qu'il lui arrive du malheur, il ne veut pas qu'elle tombe dans l'adultère. Il a le droit et le devoir envers sa famille, ses enfants aussi. Tout ce qui peut les toucher le remplit de colère, de feu, de zèle contre ce qui fait mal. Et c'est ce que dit Dieu le Père. J'ai utilisé des nations pour vous juger, pour vous reprendre. J'ai décidé que parce que vous n'aviez pas respecter le sabbat de 7 ans, d'une année tous les 7 ans, pendant 490 ans, je vous donne la solution, vous allez être puni par l'exil pendant 70 ans. Une année pour toutes les années où vous auriez dû faire un sabbat. Vous ne voulez pas le faire, je vais vous le faire. Je vais vous forcer à le faire. Des fois, c'est drôle, c'est une petite parenthèse et n'y voyez aucune manipulation pastorale. Mais on se dit, cette année, ce mois-ci plutôt, ça va être dur de donner la dîme parce que j'ai des dépenses incroyables. Et puis, pof, c'est la machine à laver qui lâche. Et vous allez être obligé de... Alors, c'est toute proportion gardée, c'est un peu ce que Dieu faisait. Vous n'avez pas voulu obéir à mes prescriptions, je vais vous forcer à le faire. Mais il leur donne une promesse, parce qu'il va punir ces nations. Et on le verra dans la prophétie des quatre cornes et des quatre artisans. Il va punir ces nations. Autrement dit, ces nations, il voulait les utiliser, mais sont allées trop loin. Et Dieu aime toujours son peuple. Dieu m'aime toujours, même lorsqu'il me corrige, c'est parce qu'il m'aime qu'il me corrige. Et donc il leur promet, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, avec amour, avec grâce. C'est le mot qui est traduit souvent dans la Septante, dans la Bible, par le mot de grâce, charis, l'amour qu'on ne mérite pas. Ma maison y sera reconstruite. Vous vous rappelez, ils sont venus pour reconstruire le temple. Il dit, ma maison va être construite. En ce moment, vous avez cessé de travailler parce que vous avez de l'opposition. Mais on va même avoir à étendre un ruban pour mesurer Jérusalem. Un ruban pour mesurer Jérusalem, c'est parce qu'il prévoit qu'il va y avoir des foules d'hommes qui vont venir à Dieu et à Jérusalem. Et il est en train de voir, envoyer quelqu'un pour mesurer, pour agrandir, et on en reparlera. Jérusalem, ils vont reconstruire derrière des murs. Maintenant, Jérusalem n'a plus de murs pour un aspect historique. Et puis, il va bénir, verset 17, proclame encore, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Ne désespérez pas. Ça, c'est le message de Dieu à vous aujourd'hui. Ne désespérez pas. Continuez à me faire confiance, à croire en moi, quelles que soient vos circonstances, quelles que soient vos épreuves. Et il nous promet, comme il le promettait à ces exilés qui retournaient de l'exil et qui trouvaient un paysage terrible, le temple en ruine, leur maison dévastée, ils ne reconnaissaient plus rien. On pense en ce moment malheureusement à ces pays où il y a des destructions terribles. On pense à la Syrie, ces personnes qui, ou l'Irak, même le Liban à une époque, ces choses qui sont inimaginables de voir des destructions pires que des tremblements de terre et des tsunamis, mais causées par la méchanceté, l'orgueil, la vanité de l'homme. Il nous donne la promesse de trois choses. Ça tombe bien, elles commencent toutes par la même lettre. Il nous promet sa présence. Il ne nous promet pas de nous épargner les épreuves, mais il nous promet qu'il sera présent. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il nous promet d'être au fond de l'épreuve. On n'en a pas trop parlé, mais ils étaient dans les myrtes. C'était dans un creux. Et on pense que le creux, c'est l'endroit à Jérusalem où se rejoignent les deux vallées. Et donc, c'est l'endroit le plus bas dans la région. Donc, c'est vraiment être au fond du trou. Même lorsque vous êtes au fond du trou, il leur promettait, l'ange de l'Éternel était présent sur son cheval rouge. Au plus profond de vos difficultés, de vos épreuves, de vos chagrins, de vos tragédies, Jésus-Christ est présent. Amen. C'est merveilleux. Il nous promet aussi, il nous donne sa prière, sa présence, et il prie pour nous. Il priait pour eux. Ils étaient même si découragés qu'ils n'osaient peut-être même plus prier au Père pour lui demander « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu avais promis que tu allais juger ces peuples, et là tout est calme, rien ne se passe. » Ces prières, et puis là il les encourage en leur disant « Le temple va être construit, Jérusalem va redevenir une grande ville, elle va être si grande qu'il faut qu'on l'agrandisse, elle va être prospère. » Alors, on reverra au fil des études que, bien sûr, il y a des réalisations immédiates. Le temple allait être construit, pas aussi beau, aussi grand au début. Et puis, il y a le temple du millénium. Il y a le temple à la fin des temps. Ça, c'est les prophéties. Il y a l'immédiat, le moyen terme et le temps de la fin des temps, le temps eschatologique. On avait introduit ce mot la semaine dernière. Dieu vous promet, Dieu vous garantit sa présence, ses prières, ses promesses. Alléluia. Prions. Seigneur, merci pour cette vision que tu as fait parvenir au prophète Zacharie, qui nous la redonne et qui nous parle en des termes très, très précis de ton amour en action pour ton peuple, Seigneur. Et nous sommes ton peuple, au même titre que les Juifs qui sont sauvés aujourd'hui, au même titre que toute l'Église qui les rassemble, Seigneur. Nous sommes tes enfants et tu es au milieu de nous. Nous avons ta présence, Seigneur. Aide-nous à la rechercher, à en être davantage conscient, à lire ta parole pour voir comment tu agis, reconnaître où tu es à l'œuvre, pour pouvoir emboîter le pas, pour faire ce que tu veux que nous fassions. Merci pour tes prières qui sont parfaites, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun péché en toi, Seigneur, et tu nous connais parfaitement. Tu connais nos erreurs, tu connais nos péchés, tu connais nos tentations, et Seigneur, tu pries auprès du Père pour qu'il nous protège, pour qu'il nous garde, Seigneur. Quelle merveilleuse chose que de se savoir protégé par tes prières, Seigneur. Aide-nous aussi à entrer davantage dans la prière. Seigneur, je prie pour que cette maison, cette église, devienne une maison de prière. Tu vois, on est peu nombreux aux petites réunions de prière, mais aussi pour les réunions de prière personnelles avec toi ou en couple. Seigneur, je prie que tu nous fasses grandir dans la prière. Et enfin, Seigneur, tu as des promesses merveilleuses pour nous. Merci pour ces promesses qui nous permettent d'endurer les difficultés de la vie. On a relu ces saints dans la lettre aux Hébreux qui n'ont pas obtenu les promesses tout de suite, mais qui ont cru et qui ont résisté, qui sont morts pour toi, qui ont gardé leur foi au péril de leur vie, Seigneur. Aide-nous à être ce genre de personnes, à ne pas nous laisser décourager lorsque les choses ne vont pas. Protège-nous des enseignements qui disent que si nous sommes vraiment à toi, alors tout doit aller bien. On sait que c'est faux, Seigneur, mais on sait qu'on a ta présence, tes prières et tes promesses. Sois glorifié. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen.